Salut tout le monde, je suis Nicolas Billière et vous écoutez From Scratch, le podcast qui explore les chemins de la création. Pour ce dernier épisode de l'année, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Robert Quash, expert product footwear designer chez Nike Jordan. Comme Robert est basé à Portland, dans l'Oregon, non loin du HQ des marques Osu chez Old Jumpman, nous avons fait cet épisode à distance, une grande première pour From Scratch. J'espère que le mix vous chatouillera un peu les oreilles car, je l'admets, la distance n'a pas facilité la qualité de la prise de son, mais qu'importe, le parcours de Robert, passé notamment par Adidas et Anta, est passionnant et il nous livre ici, de l'intérieur, de précieuses informations sur la conception et la production de sneakers au sein des grandes marques mondiales. Alors bien sûr, Robert est tenu au secret sur pas mal de choses, mais promis, il nous a gratifié de quelques pépites pour les sneakers addicts et de bons conseils pour ceux qui souhaiteraient devenir un jour footwear designer. Je ne vous le cache pas, c'est un épisode coup de cœur et je souhaite encore remercier Robert pour son temps, malgré le décalage horaire. Avant de commencer, si jamais vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à mettre un commentaire positif sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me rejoindre sur fromscratch.podcast sur Instagram. Vous y trouverez pas mal de contenu complémentaire. Allez, bonne fête de fin d'année à tout le monde et c'est parti pour tout connaître du process de création de Robert Quash, From Scratch. Salut Robert, comment vas-tu à cette heure tardive à Portland ? Pas trop fatigué ?
Salut. Ah, ça va. Ça un va. Peu, honnêtement. En fait, c'est la soirée Thanksgiving.
Ah.
Je sors d'un grand dîner copieux.
Ah ouais, donc là, t'es bien. Là, t'es posé.
Ah, je suis...
sur la digestion. Donc, je rappelle, hein, il est 9h ici et en France. Et donc, minuit pour toi de l'autre côté du monde, là-bas à Portland.
Voilà. Donc,
on va faire ça calmement, bien, on est posé, tu vois. Merci d'avoir accepté mon invitation. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. C'est mon premier épisode en distanciel, tu vois. Donc, après 22 ou 23 épisodes, c'est la première fois que je le fais comme ça en visio. Donc, on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est toujours un bel exercice. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant. On va parler de sneakers, de basket, de footwear design. Donc, un sujet que tu maîtrises parfaitement. En tant qu'expert product designer chez Nike et Jordan, donc tu es au cœur du sujet, et on va en profiter pour mieux comprendre ce métier créatif. Avant cela, il faut qu'on fasse un petit disclaimer. Voilà, c'est important. On va le faire. Je te laisse la parole, mais voilà, il y a un petit NDA qui fait que on peut pas parler de tout.
Bah, merci Nicolas. Bah oui, c'est les aléas du métier, on va dire. Ouais. En tant qu'employé de Nike, bah, j'ai signé un NDA, donc il y a des choses que je suis censé, enfin, je dois, et que je vais garder confidentielles sur la discussion. Mais,
ça marche. Si jamais de temps en temps, ça va le faire. Si je m'égare et que parfois il y a une question, bah, tu me le dis, tu me dis NDA, ça sera le mot de. Ça sera le mot de...
Joker.
Exactement. Mais forcément, on va devoir, parce qu'il y a aussi, je pense à des designers comme Tinker Hatfield, peut-être qu'on va en parler un petit peu, et ça, c'est quand même, ça fait partie de la culture et pas forcément du travail aujourd'hui. Donc voilà. Et un petit message pour les auditeurs avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet. Je pense que c'est toujours important d'aller voir un peu sur Instagram, par exemple, ce que fait Robert. Comme ça, ça vous permet d'avoir l'image en plus du son. Donc, l'Instagram de Robert, il est très simple. C'est robert.quash, Q-U-A-C-H. Voilà. OK. Donc, et là, vous allez voir, il y a plein de choses à découvrir sur ce que fait Robert, justement. Allez, première question qui me brûle les lèvres. Bah, tout simplement, raconte-nous l'instant où tu as su que le footwear design, c'était ta voie. Je crois savoir qu'il y a une histoire presque d'échec scolaire, ou en tout cas, voilà, t'as...
Ah, c'est... Ouais.
On rentre dans les ifs, hein.
C'était un peu au pied du mur, en fait, on va dire. J'ai essayé de la faire court. Je me suis fait envoyer du lycée à 2 mois du bac et
dur.
Faire des études supérieures en France pour passer après le bac. pour aller dans d'autres, à l'université, je crois, c'est ça. Il faut le bac. Et, sans, et moi, j'étais sûr à 80%, 90% que j'allais pas avoir le bac avec, en m'étant fait renvoyer, j'allais manquer des périodes importantes. J'étais dans un salon et, salon d'étudiants à cette époque, et là, on cherche sa voie, et j'avais une école privée, Créapol, qui prenait sans le bac. Mais bon, c'était une école privée, ça coûtait très cher, j'avais pas les moyens, et il y avait un moyen où je pouvais prendre un prêt à la banque. Et je me suis posé, j'ai prétendu à mes parents que je n'ai jamais été renvoyé. En fait, ils ne le savaient pas. Le matin, je faisais semblant d'aller à l'école. À un moment, un de ces jours, je me suis posé dans l'escalier et je me suis dit, je vais faire de ma vie. Quoi. Et j'avais cette brochure. C'était comme dans un film. Et je me suis dit, bah, t'as qu'une vie. Fais-le, quoi. Un test et rentre. C'est comme ça que je suis rentré dans une école de, à l'école de design et j'ai étudié le design.
Mais tu y es rentré du coup par le design, déjà en ayant le focus un petit peu sur les sneakers, ou pas du tout? Au tout début, c'est juste école de design, ou c'est vraiment une école spécialisée sur le footwear design?
Ah oui, ça a commencé par une année de prépa où on fait un peu de tout là-bas. C'est de l'architecture, du jeu vidéo, du design, c'est-à-dire du fashion. Sneaker design, ça n'existait pas. Et je ne sais toujours pas si ça existe. Il n'y avait pas ça à l'époque. Mais je savais que je voulais faire un truc. En fait, depuis tout petit, j'ai commencé à la bibliothèque et à l'école où mon frère m'a ramené un manga Dragon Ball. C'était dans les années 90. J'avais alors 4 ans, 5 ans. Et j'avais à peine lire à cette époque, je pense. Et, au bout de là, j'avais rencontré un ami à l'école qui lisait des mangas aussi, Elguven. On est toujours en contact, c'est un ami d'enfance, c'était mon meilleur ami. Et on a décidé de se lancer tous les deux dedans. Et on a commencé à dessiner des mangas tous les deux.
Ouais.
Et c'est pour ça que je voulais faire un truc en rapport avec le dessin, mais je savais pas quoi faire encore. Honnêtement, je voulais bien. Ce que j'avais en tête, c'était plus caractère designer. Dessinateur de bande dessinée, c'était un peu ça que j'avais en tête, mais depuis tout petit, enfin, j'avais des yeux sur la mode. Aussi dans le design, j'aimais bien toucher à tout en fait, sans même spécialiser quelque part. Et cette école, la première année, ça me permettait d'explorer pas mal de différents jobs dans le design, et je me suis dit, c'est une bonne entrée si tu sais pas trop vers quoi tourner, en fait. Mais ça reste dans le domaine du design.
D'accord. Donc, c'est quelque chose qui t'a rapidement plu. J'imagine que tu avais un rapport au dessin et à la création qui était déjà, du coup, assez fort. Qu'est-ce qui t'a mis vraiment au contact des sneakers? Là, tu as parlé un petit peu de références culturelles comme, d'ailleurs, c'est des références qui me touchent, hein. Comme Dragon Ball. J'étais en train d'essayer le bruit que vous avez entendu, c'est que j'essayais d'attraper le gros Sangoku que j'ai derrière moi là, et j'ai tout fait tomber. mais voilà, donc ça c'est des choses qui me parlent. Mais le contact avec les sneakers, est-ce que déjà quand t'étais petit, t'as eu des paires ou des modèles qui t'ont marqué et tu t'es dit tiens, j'ai envie de me diriger là-dedans. Voilà, ça a été quoi le déclic sur les sneakers?
Ouais, je suis hyper anatomique dans mon approche. J'ai toujours aimé le contact avec les accessoires, tout ce qui touche au corps en tant que designer. Et j'aimais bien les chaussées en termes de performance, pas forcément sneakers, mais le grand tournant qui m'a vraiment, où je suis vraiment tombé dedans, c'était en quatrième année à Créapol, à l'université. Il y avait un concours Nike. Et ils sont arrivés. Et le brief, c'était Nike plus trend égale question mark, point d'interrogation. Et voilà. Et là, ils sont venus, ils ont montré un peu leur technologie, ce qu'ils avaient et tout. Et là, j'ai fait mon enquête. Je suis allé au Foot Locker, je suis commencé à aller dans les forums de sneakers. C'était en 2010. C'était pas vraiment populaire à l'époque. Et là, j'ai découvert ce monde, cet univers, j'ai vu des passionnés, Nike Talk, c'est le forum, hein, tout le monde en parle. Ouais, c'est là où je suis rentré dedans, j'ai étudié tout ça. Je me suis dit, ah, c'est fascinant. Et moi qui aimais bien streetwear aussi, ça combinait les deux, le design produit, un peu fonctionnel, tout ce qui est un peu map, culture et tout. Et tout ça, je suis vraiment rentré dedans. J'ai gagné le concours aussi. On va en parler plus tard, je pense, les circonstances, comment ça s'est fait. Mais ouais, à partir de là, c'est là où je suis vraiment tombé dedans, où j'ai vraiment découvert la culture. Je ne sais même pas si ça s'appelait la culture sneaker à l'époque.
C'était vers quelle année à peu
Des
près?
choses, quoi.
C'était.
2010. Ouais,
Oui.
je suis venu.
Ouais, 2010, oui, la culture
C'est quand j'étais petit,
sneakers. Ouais, à fond, à fond, à fond. D'accord. Et alors, tu sais, je suis sur Instagram, hein, forcément
Ah,
plusieurs.
pardon, de 2005, en fait. Non.
2005.
Ouais, 2009, 2009, 2010. Ouais, ça fait tellement longtemps.
Ouais, mais en même temps, on a dit qu'on en parlait plus tard, mais oui, donc tu as gagné ce concours-là et ça t'a permis de faire quoi finalement ce concours? De le gagner?
Alors, en fait, je dis que je faisais des emprunts pour payer l'école. Mon frère se portait caution, mais ses revenus étaient trop, enfin, n'allaient plus. Quelque part, et je me suis dit, si je veux continuer, bah, le premier prix, c'était de l'argent. Je me disais, si je veux continuer, il faut que j'aie une seconde cours. J'ai tout mis dessus, quoi. Moi, ouais, je l'ai fait par passion aussi. C'était passionnant à faire. C'était super intéressant. Moi, c'était vital, en fait. Au-delà du plaisir. Il y avait un enjeu, quelque part.
Oui, et du coup,
Ouais,
l'enjeu à
c'était.
l'époque t'a motivé ou l'enjeu au début dans justement ton process de création à cette époque-là, je sais pas si tu t'en souviens, mais voilà, est-ce que ça t'a mis de l'adrénaline en fait et ça t'a permis de te dépasser, ou est-ce que t'as quand même senti une certaine de certaines limites en fait, tu vois, qui ont été posées par cet enjeu? Je sais pas, tu t'en souviens, hein, ça remonte donc.
Ouais, je m'étais pas posé de questions.
Ouais. Oui, en plus quand on est
J'ai envie
jeune,
de
on y
faire
va
ça.
quoi.
Voilà. C'est de la conscience. Enfin, la conscience. Parce qu'au final, ça a payé, mais je m'étais pas posé la question. Bosser sur ce projet, j'ai adoré. Du coup, ça a grandement aidé. Pour vrai, je me suis pas posé de questions. Je m'étais fait plaisir.
Ouais, c'était ça
Après, le
le driver.
résultat, ouais.
Le plaisir, et forcément. Quand ça fait plaisir, on y va beaucoup plus facilement. Toi, tu es rentré du coup dans le footwear design donc par ces études-là. Et ça a été quelque chose finalement. C'est marrant, hein, tu vois, ça a été déclenché par le renvoi de l'école. Enfin bon, comme quoi c'est une belle histoire. Mais je suis aussi sur Instagram, par exemple, plusieurs footwear designers. Il y en a un qui postait récemment une story. Je vais le citer, hein, il s'appelle Yam, il est designer pour la marque Veja. Et il disait, voilà, ben moi, en fait, je suis rentré là-dedans. Vraiment par hasard, je faisais du custom, du bespoke, et je faisais des vidéos, voilà, j'ai eu beaucoup d'engagement, les gens ont commencé à me regarder, j'ai pas forcément de background ou j'ai pas fait d'études, pourtant, ben, je suis là et aujourd'hui je suis sneaker designer. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, justement pour rentrer dans ce métier-là, on n'a plus besoin de passer par des études de designer forcément? Qu'est-ce que tu remarques toi autour de toi, tu vois, dans les profils qui t'entourent?
Y a de tout. Franchement, à une époque, on disait tout sur les études et tout, mais avec le monde d'aujourd'hui, il y a une ouverture. La création, elle est partout. Franchement, avec les réseaux sociaux, tu peux trouver des tutoriels sur tout et n'importe quoi, tu peux tout apprendre aujourd'hui. Du coup, enfin, en vrai, ça veut dire que moi, parce que, bon, c'est personnel, mais les études, ça, disons, ça valide certaines connaissances. Après, en termes de création, tout le monde, enfin, c'est ouvert à tout le monde, quoi.
Oui.
Je vois plein, enfin, quand je fais des recherches et tout, je trouve super intéressantes, c'est les artistes qui s'amusent, enfin, qui ont, par exemple, qui m'ont ramené un point de vue différent de la chaussure aussi. Parce que je sais que dans un certain point, quand on est trop dans un corps de métier, on est entre guillemets formaté. Et du coup, on reste coincé dans un style ou dans un état d'esprit. Et voir d'autres gens qui arrivent avec un angle différent, avec un autre background, c'est,
pour ouais, moi, ça te nourrit aussi. Ça te nourrit, ouais. Et, ouais. D'accord. Et donc, du coup, pareil, moi, là, je vois si le NDA va sortir, carte Joker, mais ce que tu peux voir autour de toi aussi chez Nike, ou même ce que tu as vu chez Adidas, est-ce que justement, il y a des profils différents aussi? Enfin, le fait d'accéder à ces grandes marques voilà, mondialement reconnues, on peut y accéder aussi par ces différents points d'entrée?
Ah oui, bah, tout à fait. Mmh. Je pense qu'il n'y a pas de règles. Aujourd'hui, il n'y a pas de règles. C'est tellement ouvert, je ne peux même pas citer par où commencer. Quoi.
Ouais.
C'est le mec dans son garage qui va poster sur Instagram, qui va devenir viral et qui va faire du bruit. Ou... Je ne sais pas.
Non, mais c'est un dans super message
rue,
au final.
Tu arrives à New York et tu portes tes propres produits, un mec va le remarquer, va prendre une photo et ça va s'enchaîner comme ça. Il n'y a pas de règles. Je trouve la bonne. L'innovation dans ça, c'est une manière inattendue de se faire voir aussi. Je vois souvent des gens qui donnent des CV entre guillemets farfelus dans le bon sens du terme. Où c'est agencé. Avant, on n'envoyait pas de vidéo. Maintenant, t'envoies ces mêmes vidéos, t'envoies un QR code ou tu montres d'autres choses. Alors qu'à l'époque, c'était un bout de papier. Tout ça évolue. C'est pour ça que je trouve ça tellement ouvert. Il y a tellement de manières d'entrer maintenant. Donc, après, il y en aura qui... Voilà. Comme dit, ça dépend des personnes. Il y en aura qui vont vraiment se fixer. Je veux quelqu'un qui sort d'une école. Ce que je peux comprendre, on doit valider certaines connaissances. Certains styles en footwear, il faut des bases. Et d'autres... Non, mais ça dépend ce que le manager ou le recruteur recherche. Ça dépend du profil, en fait. Et il y a des profils, il y a toutes sortes de profils. On cherche toutes sortes de profils.
Tiens, d'ailleurs, c'est une question que j'avais pas forcément, mais c'est super que tu tailles sur ce chemin-là. C'est quoi un peu les différents types de profils qu'il peut y avoir, du coup, dans une, on va dire, une section footwear design chez Adidas ou Anta ou Nike, tu vois. Donc, tu vas avoir des experts designers comme toi, mais autour, il y a quoi comme autre corps de métier qui participe à la réalisation de la sneakers?
En grande partie, je pense que c'est pas un secret. Les gens qui viennent d'architecture, Tinker Hatfield, il vient de là. Design transport, il y en a pas mal. Car designer. T'as d'autres qui bossent en magasin, footlocker, et qui sont passionnés de sneakers. Du coup, ils ont une vraie culture, ils ont une vraie connaissance du métier. Et à partir de là, ils ils apprennent d'eux-mêmes, ils forcent, ils bougent. C'est des gens hyper motivés qui adorent ça et avec la passion l'emporte, quoi. Ils arrivent à...
Ça me fait penser à Grotesque, qui est un artiste que j'adore et qui avait une agence à Brooklyn qui s'appelait Double Day and Cartwright et qui est parti donc chez Nike, hein. Bon, NDA, on va pas trop en parler, donc c'est quelqu'un qui a fait du graffiti, qui était hyper ancré dans la culture, graphisme, street, etc. et qui aujourd'hui a le bonheur, j'imagine, de designer aussi pour Nike. Donc c'est vrai que cet aspect culture et connaissance, en fait, de ce qui se passe dans la rue et dans les usages, ça a l'air aussi d'être hyper important. Toi, tu débutes donc en tant que stagiaire chez Adidas. C'est ça le point de départ aussi?
C'est ça. Ouais.
Ça a été difficile de rentrer là-bas?
Oui et non. Enfin, c'est bien l'avantage avec l'école, il y a beaucoup de contacts, mais il fallait aussi... on est sélectionné sur une base internationale, du coup... C'est beau d'avoir les contacts, mais il faut avoir le profil dont eux ont besoin. Et là, pour faire la pub sur l'école où j'étais, la force, c'était vraiment de former des élèves qui sont prêts à bosser en entreprise ou en agence de design. Ça a beaucoup servi, franchement. Et avec le profil, ils avaient besoin de quelqu'un. on envoie notre portfolio et ils font une sélection. J'ai été sélectionné, j'ai commencé mon stage chez Y3 à Lyon.
Trop bien.
Juste après le concours NAC. C'était marrant, le NAC à Lyon.
Oui, c'est ça. Et j'imagine que le fait que tu aies gagné le concours, forcément, ça a participé au choix d'Adidas, ouais.
Ouais, je pense que c'est vrai que, je m'en souviens plus, mais je sais même pas si je l'ai avant, en fait, le stage.
D'accord.
Je pense après, ouais. Je sais pas. Je vais pas confirmer. Okay. Mais je pense que, ouais, je l'ai eu après.
Ok.
Mais après, c'est des trucs confidentiels que j'avais donné à Nike. C'est un projet qui appartenait à Nike.
Ah, là aussi. Eh oui, tu m'étonnes, ils sont malins. D'ailleurs, c'est une question que j'aurai un peu plus tard, d'ailleurs, sur la propriété et tout ce qui est droit intellectuel et tout ça. Mais donc, revenons un petit peu donc, sur Adidas. Là, tu pars en Allemagne, c'est ça? Ou tu restes... Oui, hein. Donc là, déjà, un premier mouvement à l'étranger, ok. Ça marche.
Je fais six mois en Allemagne. Dans une équipe, ouais, Y3. Enfin, moi, c'était pionnier. Enfin, il n'y avait pas mieux à l'époque en termes de... Enfin, de mon point de vue, lifestyle, fashion, c'était un roulement. Le merge, enfin, l'association sneaker et fashion et sport. Et je me souviens avoir vu un catalogue. Avant, on distribue, je ne sais pas si ça se fait encore, parce que je ne vis plus en France, mais les magazines métro, il y avait une grosse pub Y3. Trop beau. Et là, j'avais une offre de stage pour aller là-bas.
Ouais, là, t'es lancé, quoi. Là, t'es trop content. Et on va revenir d'ailleurs sur des travaux que t'as fait là-bas juste après. Si on parle de footwear design, j'aimerais, pour entrer dans le vif du sujet, on va revenir un peu d'ailleurs sur Tinker Hatfield. Hein, on est un peu obligé de le citer. Ça fait un peu partie des papas du game, quoi. Donc, juste pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément, c'est le papa notamment de la Air Max One, plusieurs modèles de Jordan, la Air Trainer, la URH aussi, je crois. Donc, il y a quand même pas mal de modèles iconiques. Et du coup, il disait dans un documentaire, d'ailleurs, qui est disponible sur Netflix, hein, si vous voulez aller voir, que lui, il avait commencé à designer des baskets pour répondre à un problème finalement physique. Ça fait un peu écho d'ailleurs à ce que tu disais tout à l'heure sur l'anatomie. Tu as commencé un petit peu à l'évoquer. Mais voilà, il avait eu une blessure. Il bossait aussi avec Bowerman, donc qui est le cofondateur de Nike, et qui lui aussi était très axé sur comment je vais optimiser la performance en fait des athlètes, prendre soin de leurs pieds pour qu'ils soient encore plus performants. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui, et quand tu as commencé à travailler dans le design, parce qu'aujourd'hui il y a quand même le style, là, tu vois, la mode, la fashion qui a pris un petit peu le devant de la scène, même si j'ai l'impression qu'on revient beaucoup à des modèles très techniques et qui arrivent à allier les deux. Mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours cette philosophie, et c'est celle que toi tu avais quand tu as commencé aussi le design, c'est-à-dire résoudre finalement des problèmes, quoi?
Ouais, bah le corps du métier de designer, c'est, on dit, problème, c'est résoudre des problèmes. Et les problèmes, ça peut être émotionnel, style, physique. Du coup, je prends tout ça en compte. J'englobe tout ça.
Ouais.
À l'époque, j'étais en Adidas, j'étais plus en côté performance. Du coup, c'était des choses qui allaient dans ce sens. En fait, chez Y3, c'était plus dans le style. Mais il y a toujours cet aspect, ok? C'est une marque de sport. Il fallait toujours penser confort. C'est fait par une chaussure, c'est fait pour être porté dans l'idéal tous les jours, et le confort, c'est un truc qu'il fallait jamais négliger.
D'accord, donc ça fait toujours partie de ta réflexion en tant que designer. Voilà. Quel est le problème? Et alors, du coup, on parle de problème. Quand tu, par exemple, tu travailles sur un nouveau modèle et qu'on te brief, déjà, est-ce qu'on te brief, ou est-ce que c'est toi qui imagine, tu vois, enfin qui on va dire le starter du projet, tu vois, ça c'est intéressant. Ou si on te brief, est-ce que on vient vers toi avec, bah tiens, on a sur le marché, il se passe ça actuellement, comment on peut résoudre tel problème par rapport à telle tendance, ou par comment ça se passe en fait le départ de la conception d'une sneakers?
Bah, dans les grandes lignes, dans les grosses entreprises, c'est on marche par saison. chaque saison, on regarde ce qui se passe. Et en gros, c'est qu'est-ce qu'on fait?
Ah oui, tout simplement.
C'est identifier ce qui se passe. Et après, ça dépend de la période ou de la boîte où tu bosses, où tu où t'es déjà sur une vague, où tu dois aller contre la vague, où tu dois combattre la vague. Et
voilà. Et oui.
Après, ah oui. Ça rentre dans l'indie, et du coup, je ne sais pas.
Oui, oui, je comprends. Mais si je reviens à une période, du coup, plus ancienne, et c'est vrai qu'à l'époque, donc au début des années 80, il y avait cette sorte de bataille entre Nike, Adidas, Reebok aussi, qui avait pris pas mal de parts de marché. Et donc, j'imagine qu'effectivement, les modèles...
Il y avait Puma aussi. Il y avait
encore, c'est vrai. Il y avait encore Puma, et puis le début des sponsoring avec à la fois les sportifs, mais aussi les artistes, et toute la vague, justement, hip-hop. Et j'imagine quoi, là, chaque entreprise se dit, OK, là, on est un peu à la traîne, comment on va faire, du coup, pour réagir, quel modèle on va pouvoir lancer qui va permettre de reprendre le dessus, c'est un peu ça, et puis on fait en fonction. ou NDA.
Ouais, par exemple, Il y a du NDA, mais j'ai essayé de répondre à côté. c'est une question pertinente. Mais
non, mais tu peux me sortir le NDA.
Qu'un produit
hein,
fort de la marque. Non, je trouve ça. Je peux y répondre. Quand il y a un produit fort qui sort, c'est la concurrence, naturellement. On a quoi pour contrer ça? En gros. On a combien de temps OK, nous, on est confiants de notre identité de marque et eux, ils font leur truc. Nous, on continue sur notre truc. Tout dépend du management, c'est qui le CEO de la boîte, sa mentalité, ça va. Tu vois, c'est haut de la pyramide, ça va s'étendre sur les autres managers, sur les gens en dessous, et le message qui arrive. Ouais.
Oui.
Sur toi, ça va dépendre de ce qu'il va se dire en haut, quoi. Ouais. Bon,
oui.
Moi, j'ai pas eu accès à ce qui dit tout en haut. J'avais une interprétation et après, tout dépend des boîtes, ils ont des directions, ils ont des directions créatives qui sont pour tous les employés. Du coup, on regarde tous dans la même direction et ce qui facilite les décisions, on s'aligne sur ça et on justifie nos décisions sur ça.
On a parlé de Tinker Hatfield. On doit forcément évoquer un grand nom du design chez Adidas. C'est Jacques Chassin. Donc Jacques Chassin, c'est un grand bonhomme, j'ai envie de dire, du design mondial. Et c'est vrai qu'on met souvent en lumière Tinker Hatfield et pas forcément assez Jacques Chassin. Alors juste avant d'enchaîner sur lui, hein, il a l'origine quand même de pas mal de modèles. Il y a la ligne ZX par exemple. Tiens, regarde, j'ai pris, je sais pas si tu le vois. Hop là, celle de ma fille. Voilà, je les ai prises. Voilà, je me suis dit tiens, on va faire un petit clin d'œil. Il y a tout ce qui est donc ZX, la 500, la 8000, Torsion. La Forum, la Continental, donc voilà quoi, il y a quand même du très 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 lourd, et toi ça a été ton mentor.
Exactement, moi je sortais de l'école, ok j'avais gagné le concours de Nike de chaussures, mais en tant que designer produit, j'avais aucune formation chaussures à part mes connaissances où je disséquais une vraie chaussure pour regarder comment ça marchait. Et lui il m'a tout enseigné, je suis arrivé, en plus il est français, et moi qui parlais pas très bien, on va dire très mal anglais. Il m'a mentoré, quoi. Et il m'a appris à lire une chaussure, quoi. À voir comment ça fonctionne, les constructions. Ce qui était bien avec Adidas, c'est une histoire riche de la marque. Et lui, qui avait une longue carrière, chaque histoire, il me racontait des histoires folles sur la création de chaussures, quoi. Et
ça, c'est incroyable.
Un peu, le succès de chaque chaussure. Moi, en tant que débutant, junior qui commence, d'un coup, je propulsais, j'étais son assistant designer. J'étais tout seul avec lui quand il y avait une équipe de deux. Et voilà, on bossait main dans la main. Et
C'est fou,
franchement,
hein.
Pour débuter, c'était, je pourrais pas imaginer mieux.
Tu m'étonnes.
C'était le scénario parfait pour moi.
Oui, tu avais une sorte d'encyclopédie ouverte juste à côté de toi, quoi.
Ouais, je me souviens, j'avais une question, j'allais voir anecdote marrante, des fois, ça m'avait. Des fois, j'allais le voir, poser une question à genre 14h de l'après-midi, on discute. D'un coup, il fait nuit, on se rend compte qu'il est 18h, quoi. Alors, je venais juste voir pour une petite question, parce qu'on jumpait sur chaussures, on commençait à dessiner, ou on parlait et tout, et c'est tellement passionnant, et il transmet tellement. Moi, j'étais là, je me dis, oh, c'est pas tous les jours, j'ai une chance inouïe. Ouais, franchement, moi qui lis des mangas, c'est une tortue géniale, quoi. C'était Master Roshi, c'est pour caricaturer ou Maître Yoda, quoi. C'était.
Ouais, tortue géniale
Ouais,
sans l'amour pour les culottes, etc. quoi, hein, sans le côté lubrique. Non, parce que parenthèse, tu sais, j'ai pareil, mon fils, là, j'ai commencé à lui mettre des petits Dragon Ball là sous les yeux, et puis moi, en revoyant les premiers numéros. J'avais oublié, tu vois, le côté Bulma,
Ah,
la folie un peu de Tortue Géniale. J'étais, ah ouais, c'est vrai qu'on regardait ça à l'époque quand on était petit et on se rendait pas compte, tu vois, mais c'était, comment dire, un peu
ouais,
coquin, un peu coquin.
aujourd'hui, c'est moi.
Et alors,
Bah, sans
donc.
côté, ouais, c'était bien de le préciser.
Ouais, non, c'est vrai. Donc voilà, donc c'était sans ce côté-là. Et donc, qu'est-ce que Jacques Chassin t'a transmis? Qu'est-ce que tu penses que, enfin, t'es reparti avec quoi de lui qui t'a servi toi dans ton travail?
Oh, énormément de choses. Humainement, aussi la passion de transmettre, le savoir, c'est un truc super important. T'es hyper généreux dans ça. Il prenait toujours le temps de m'expliquer et me parler. Je faisais des erreurs et lui, il le prenait bien, il trouvait ça normal. Un jour, j'ai fait une erreur et j'étais hyper pas bien. Après, je me suis excusé. Il m'a dit, arrête de me morfondre, quoi. Il m'a dit, tu sais quoi, ceux qui font rien, c'est ceux qui font jamais d'erreur, quoi. Et ça m'a reboosté. Mais donner de la confiance, ouais. Allez, je vais essayer de revenir à la question. Ouais, la confiance, la connaissance en tant que chaussure. Comment lire une chaussure, c'est hyper important, je trouve. Comprendre la pièce, elle est dessinée, pourquoi, comment, à quoi ça sert, pourquoi c'est là, la matière, les proportions, bah, tout dans une chaussure, quoi.
Et t'emploies
Comment
le terme lire.
designer.
T'emploies le terme lire une chaussure, quoi. C'est vraiment le terme, quand tu la décortiques, etc. C'est voilà, savoir lire une chaussure. C'est comme ça que vous en parlez.
Je sais pas si c'est un terme, j'ai toujours utilisé. Ouais, c'est quand je regarde une chaussure, ça marche pas à 100%. Je peux pas tout savoir. Du coup, il y a des trucs. Ce qui est bien dans le monde de la sneaker, c'est aussi l'effet surprise inattendu, mais en général, on comprend pourquoi cette pièce est là et à quoi ça sert. C'est pas mis par hasard juste pour faire joli, quoi. Et là, des fois, tu sais pourquoi, enfin, dans d'autres. Ah, cette pièce, elle est venue pour faire jolie, elle sert à rien, quoi. C'est ça qui m'a transmis. Et aussi, en tant qu'Adidas, avec la grande histoire, il y a des subtilités qui m'a appris. Enfin, aussi, en tant que manager, humainement, comment manager les gens, comment discuter. Enfin, ouais, c'était. Créativement aussi, il était super ouvert à cet âge-là. Parce qu'il a de la bouteille et il était super ouvert. Moi, j'imagine un stage-là être un peu enfermé et tout. Là, il était ouvert à tout, toute proposition et tout. Il m'avait soutenu sur des trucs.
Oui, c'est ce qui l'a fait durer dans le temps finalement, c'est cette ouverture. Et donc finalement, c'est un super message en fait, hein, ce que tu es en train de dire, c'est que pour rester créatif, innovant, il faut toujours rester ouvert et justement faire rentrer la nouvelle génération à tes
Ah
côtés. Et l'épauler plutôt que de la rejeter ou la mettre sur le côté ou des choses comme ça, quoi.
oui, c'est bon ça, on en vient à la première question que tu m'avais posée au début, c'est ça. Est-ce qu'il faut vraiment étudier la chaussure? Je veux dire, oui et non, c'est bien de savoir, mais c'est aussi bien de ne pas savoir, parce que c'est là où tu arrives à une chose que personne n'y pensera, quoi, n'aurait pensé. Et moi, j'avais cette fougue qui me permet à cette époque de venir avec des choses que, enfin, j'ai pas personne parce que je connais pas tout le monde. Je venais avec des trucs qui arrivaient à le surprendre.
D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres designers qui t'ont influencé? Bon, donc on a parlé de Tinker, mais est-ce que pas des gens comme Peter Moore? Donc Peter Moore, c'est celui qui a fait la Jordan 1, l'iconique Jordan 1, qui est passé d'ailleurs après, il est parti de chez Nike, et il n'est pas venu chez Adidas, Peter Moore, il me semble.
Oui, c'est le mentor de Jacques.
Ah ouais, non. Ah, c'est le mentor. Non, c'est vrai Ah ouais.
L'histoire marrante, c'est... Enfin, l'histoire marrante. Une anecdote, c'est... Ouais, Peter Moore, il a dessiné la Jordan 1 que Michael Jordan portait. Jacques Lassin, il a dessiné la Forum High que Jordan portait avant de signer chez Nike. Du coup, ils sont qu'à eux par liés et ça bossait chez Jordan. C'est un petit clin d'œil qu'il y a eu entre guillemets.
C'est incroyable.
C'est l'ironie, c'est l'histoire, c'est ce triangle. Bon, je suis personne, hein. C'est-à-dire, je ne me parle pas en mode entre Jacques Lassin et Peter Moore, quoi.
Ah oui, ah, j'avais pas du tout cette liaison, quoi. Incroyable. D'accord. Bon, mais ça, c'est super intéressant. Et donc, voilà, donc on parlait de Peter Moore. Il y a aussi des gens comme Hiroshi, Fujiwara, etc. Est-ce que, donc, qui t'a, au-delà de Jacques, du coup, t'a voilà, inspiré et peut-être tu lui as pris une petite chose à gauche, une petite chose à droite?
C'est dur de mettre... Enfin, il y en a tellement à différents niveaux. Parce que l'inspiration, je ne la prends pas de la chaussure. Enfin, je regarde ce qui se passe, mais j'essaye de ne pas trop regarder pour... Parce qu'inconsciemment, tu fais ce que tu vois, inconsciemment. Du coup, mais l'inspiration, je la prends souvent dans les mangas et les jeux vidéo. En fait.
Oui, c'est ça. Ça, c'est l'essence.
Megaman, caractère design Megaman, il est dingue. C'est méconnu. Enfin, je ne sais pas. Enfin, aujourd'hui, je sais pas. C'est moins connu, mais j'étais à fond Megaman. C'est avec l'anatomie, tu sais, t'as les armures et tout, tu sautes, tu dashes, tout, avec tout ça. Et ça m'inspirait pas mal au Bruce Lee. C'était tout à partir du mouvement, transmission de l'énergie et tout. Il y a un mot pour ça, je sais en plus. Mais ouais, je peux pas en citer. Enfin, un designer de nom.
Ouais.
Il y en a tellement. Caractère designer de Metal Gear. Final Fantasy. Tellement.
Non, mais c'est marrant parce que c'est un point de commun finalement avec beaucoup de créateurs que j'interroge et je pose souvent cette question. Peut-être que d'ailleurs je vais arrêter de la poser, mais voilà, de qui t'as potentiellement influencé. Et régulièrement, en tout cas, j'ai cette réponse-là de. Je sais pas vraiment et je pourrais pas te citer de nom en particulier. Voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose quand même qui est commun à beaucoup de créateurs où on prend beaucoup de plein de choses.
Je pourrais pas hiérarchiser en fait. Parce que je prends tellement à gauche, à droite. Ça dépend des périodes de ta vie.
C'est changeant en fait.
J'ai même pas mentionné Zelda, Super Mario, pareil, il y en a plein. Ce serait Zelda. Offense de commencer à en citer parce que je vais en oublier. C'est pour ça que j'ai.
Ok. Du coup, on va revenir sur le process de création. En temps normal, c'est quoi le process de création d'une sneaker depuis l'idée initiale jusqu'au proto? Tu vois, c'est quoi les grandes phases? Juste pour qu'on comprenne vraiment le séquençage de la conception d'une basket.
Je pense que ça correspond à répondre à un besoin. Réponse, ça fait partie des fondamentaux du design, c'est répondre à un besoin, à un problème solvé. Et c'est à partir de là, dans les grandes lignes, à partir de là, le brief que tu reçois, c'est censé répondre à un besoin. Soit marketing, financier, fonctionnel, sneaker ou pour un défilé. Et à partir de là, on a des meeting reviews, tu vois ça avec ton marketing, avec l'équipe. commences à dessiner, enfin, t'as ton brief, tu le digères, plus ou moins tu regardes avec ton équipe design, vous mettez d'accord sur une direction, vous échangez, chacun a sa méthode de travail aussi, et on échange, on se met, on s'accorde sur une direction qu'on va présenter au marketing, ça passe plus ou moins, ils ont leur avis, on a notre avis, etc. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, du coup on se revoit. En général c'est 3 fois, je sais pas pourquoi le chiffre 3, mais généralement c'est 3 fois. Ensuite on se lance dans les tech packs, c'est le dessin technique pour faire le proto.
Ok.
Et ensuite on reçoit le proto, on montre, parce que des fois ce qu'il y a sur le papier, ce qu'on ressent, en vrai, des fois il y a des surprises dans le mauvais comme dans le bon sens. Et à partir de là, on est d'accord, on le montre au supérieur et tout, et ensuite je sais plus comment ça s'appelle, il y a différents noms dans chaque boîte où j'étais, et en gros les acheteurs, ceux qui vont distribuer le produit, s'il leur plaît, ils l'achètent ou pas, ça dépend de la campagne, de la présentation derrière, le potentiel financier, je pense. Et ensuite, t'as les mis au marché. Et tu vois les résultats. Ça, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Et c'est toujours intéressant de voir son produit sur le marché, voir les réactions, voir si ce que t'as. Voir les effets du design que t'as fait, quoi.
Là, tu veux dire, tu réunis un panel, ou quand tu parles de marché, c'est quand elles sont mises en vente, ou c'est auparavant, tu réunis des panels et tu testes sur des panels le modèle?
Ah, ça dépend du projet, de l'importance du projet. Et je l'explique en gros, en fait. En gros, c'est, je l'achète pour mon magasin, ou la distribution Adidas en Chine. Aime bien ce produit, on va en commander, je sais pas, 1 million, à mettre sur le marché, pour les magasins en Chine. C'est ça que je voulais dire.
Ok, ça marche. Et en termes de temporalité, là tu parles de ce projet, c'est changeant, c'est-à-dire en fonction du besoin, j'imagine, parfois, alors il y a un projet dont on va parler, un de tes projets qui a été fait très très rapidement, par exemple, on va y arriver après, mais voilà, ça peut changer vraiment du tout au tout. Vous pouvez avoir, je sais pas, 2 mois comme 6 mois comme 2 semaines.
Ouais, tout dépend de la boîte où tu bosses, la marque où tu travailles. Des projets sur le long terme qui prennent 2 ans, d'autres 6 mois, d'autres 1 semaine.
Une semaine.
Souvent,
c'est fou,
je pense,
ça.
Les gens parler le marketing, ils arrivent. Oh, on a besoin de ça. T'as la fin de la journée pour dessiner le produit.
L'enfer.
Et des fois, ils y arrivent et ils la sortent. Des fois, c'est le mieux, tu vas à l'essentiel, tu te poses pas de questions. Des fois, quand t'as du temps, tu te poses trop de questions. Du coup, ça dépend de l'état d'esprit, de l'approche. Il y a tellement de paramètres que. Il y a de tout, en fait, dans le métier. C'est ça qui est excitant aussi.
D'accord. Petite question encore là-dessus. Par exemple, en agence de pub, ça arrive très régulièrement qu'il y ait une prise de brief et du coup, tu mets, par exemple, 2 teams créatives ou peut-être même 3 en compétition en interne pour savoir qui va sortir la meilleure idée. Est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver chez Adidas ou Anta ou Nike de « Ok, on a un brief et voilà ». Telle équipe, vous allez bosser dessus et que le meilleur gagne, en fait.
Ouais, ça arrive. Tous les cas de figure sont les deux. Ouais. Des fois, tu regardes, c'est quoi la meilleure manière de booster ou d'avoir les meilleurs résultats. Il y a différentes manières et ça en est une aussi.
Et la part de R&D, tu vois, quand on travaille sur un nouveau modèle, est-ce que c'est donc... il y a toujours de la R&D ou, enfin, j'imagine quand tu me dis on a une semaine pour sortir un modèle, la R&D, peut-être que tu le... il n'y en a pas forcément. Mais voilà, est-ce que, tu vois, comme dans James Bond, il y a une sorte de Mr. Q, là, de Q, et avec un laboratoire, et vas-y, on fait des recherches de matériaux, on propose des nouveaux gadgets, tu vois. Comment ça se passe, la R&D? Là, ça va être NDA, là.
Ouais, c'est ça. Je ne vais pas en dire plus.
Même dans les précédents jobs, hein. Ouais, tu es soumis au NDA. De... Ah ouais.
Okay. Ouais, quelque part, c'est... ça va être too much. Enfin, too much. Ouais, ça va être trop. Voilà.
D'accord. Et alors, bon, d'accord, ok, ça marche. Je vais quand même... au niveau du naming, du coup, quand, pour choisir un modèle, le nom d'un modèle, ça, c'est qui? C'est le marketing? Ça peut être vous, les créatifs?
Ouais. Ça dépend. Chez Y3, on avait notre propre nom de chaussure, ce qui est marrant. Chez d'autres marques, j'étais chez Power Design, là, c'était dans le brief, le nom. C'était le marketing qui avait le nom.
Ok.
Bon, ça dépend. Enfin, ça dépend.
Toi, c'est quoi qui t'éclate le plus, finalement? C'est dessiner des modèles? C'est faire de la recherche? Vraiment, dans ton métier? Voilà, c'est là où que tu t'épanouis le plus.
Non, c'est la recherche. C'est juste penser. C'est des vagues, mais c'est tellement divers dans une chaussure. C'est l'approche aussi. Comment approcher une chaussure, c'est aussi le type de projet. Il y a une nouvelle technologie, comment l'utiliser. Ou comment pousser une idée, ou comment, enfin, dessine pour les projets où tu dois dessiner pour des sneakerheads ou ce qu'on apprend à l'école. Quand aujourd'hui on appelle ça des tribus, en gros, enfin des sneakerheads ou des blogueurs, des fashionistas, des otaku, ça c'est un peu compartimenté. Moi, c'est l'approche psychologique que j'adore. Et un peu décrypté, un peu comme Steve Jobs qui, quand il lance l'iPhone, c'est répondre à un besoin que les gens n'ont pas encore. C'est leur montrer.
Ouais, tu crées
personne
le besoin.
Personne ne savait c'était quoi. Et voilà. Tu réponds à une problématique qui eux ne savaient pas qu'ils avaient besoin, en fait. Tu simplifies leur vie sans qu'ils s'en rendent compte. Enfin, ouais, alors qu'ils l'avaient pas demandé, mais ils voient ça. Ah, putain, à faire ça, oh, ça va m'aider à faire ci et ça. Et je pense que c'est ce que j'essaye de retransmettre quand je dessine une chaussure, c'est répondre à un besoin, ça reste la base. Après, tu as des besoins qui sont, on va dire, straightforward, c'est pour ce projet, il faut plus de. Cette chaussure n'a pas été confortable, la version 2, il faut la faire plus confortable, bon, tu sais vers où te tourner. C'est un exercice de style. Au-delà du style, c'est qu'est-ce qui va plaire à la personne qui va la porter. C'est l'associer à une archive, une rétro, ou faire un truc futuristique, ou un mix des deux. C'est tout ça qui est intéressant. Trouver le juste milieu. Ça aide aussi à justifier ses choix. Quand on arrive à des choix subjectifs, ah, j'aime pas, mais pourquoi? Et à partir de là, t'approches, ouais, la personne ou, on va dire, consommateur ou dans le sens positif, hein, pourquoi il aime la chaussure, ou l'acheteur, ou le fan, ou l'athlète, ou le sportif qui va vouloir acheter la chaussure, c'est, t'essaies de voir ce qu'il aime, quoi. Les couleurs, les matériaux, qu'est-ce qui va le rendre confiant dans sa course, quelle couleur, ouais, c'est tellement de choses. C'est l'aspect psychologique, en fait, qui donne, à partir de là, ça définit un peu les formes, les matériaux, enfin, c'est là où les idées, elles prennent forme.
Et en parlant de matériaux, de formes, t'as employé aussi le mot futuristique il y a quelques secondes. J'ai l'impression que, quand même, toi, t'es... Ouais. Assez porté là-dessus. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir, hein, notamment sur les travaux que tu mènes en side project, parce que je pense que tu as beaucoup de travaux et que ça t'aide aussi dans ton travail de faire des recherches de ton côté. Voilà. Et c'est vrai qu'on voit, hein, le 3D printing, c'est quelque chose qui a l'air de vraiment te motiver, en tout cas. Je vois que tu as des modèles assez incroyables.
Ouais.
SU001, donc ça, c'est un nom un peu concept, hein, tu vois, mais ouais. Moi, j'adore aussi la Volcano Rock, tu vois, qui est assez incroyable.
Ah ouais.
Donc voilà, j'ai l'impression que tu fais aussi toutes tes, toutes ces petites recherches de ton côté et que ça t'aide beaucoup à nourrir ta créativité. Je me trompe ?
Ah ouais, c'est exactement ça. Ouais, je prévois pas d'en faire, mais c'est juste que tu vas trouver sur une image sur Internet, tu vas te promener, tu vas voir un truc et tu te dis, ah oh, tiens, ça me donne une idée de chaussures, donc ça, alors que tu n'avais pas prévu. La Volcano Rock, j'avais oublié que je l'avais faite. SI, c'était un truc. Ça veut dire un truc, j'ai oublié, ça fait tellement longtemps, mais Shoe Utility, c'est genre un truc, c'est un accessoire de chaussures, entre guillemets. Je voulais en faire une déclinaison en fonction des besoins. Et là, je réponds plus à des besoins personnels. C'est des trucs qui regardent que moi, je fais ça pour m'amuser. Et c'est vraiment dans mon style. Ouais, plus là où j'aurais pu mettre la différence entre de l'art et le design, ou le design, tu designes pour quelqu'un, tu essaies de répondre à un problème. Et l'art, c'est subjectif. Et pour moi, c'est juste artistique. Je le fais sans essayer de. Je le fais pour moi. Enfin,
hyper intéressant.
C'est l'idée que j'ai envie de mettre et tout. Et c'est un peu exprimer ce que j'ai dans la tête, quoi. Et le retranscrire en chaussures ou retranscrire des besoins. Enfin, je suis mon propre cible.
Et quand tu es dans cette démarche, justement, c'est hyper intéressant, ça. Hyper, donc, plus artistique. Toute la partie fonction, tu vois, de la sneaker, c'est le côté performance, etc. Est-ce que tu le mets quand même en retrait, justement, et c'est plus le style qui domine, tu vois, la shape, et éventuellement le fait de s'amuser avec des nouveaux matériaux. Est-ce que c'est, tu vois, voilà, est-ce que le fait d'être dans l'art, il y a des choses qui, tu te contrains moins, en fait, tu vois, sur certains aspects?
C'est un peu tout, parce que, enfin, personnellement, une chaussure, j'ai toujours, c'est fait pour être porté. Du coup, si elle te fait mal au pied, c'est qu'il y a un problème. Du coup, je ferai pas une chaussure qui, enfin, je suis pas dans l'optique de faire une chaussure qui soit pas confortable.
Ah voilà, c'est pas juste du beau.
Du coup, c'est là où, ouais. Après, c'est mon côté fonction. Enfin, tu vas faire un truc que tu vas trouver beau, mais tu veux pas l'apporter. Tu vois pas l'intérêt. Et là, je suis moins dans le délire de mettre une chaussure sur l'étagère et jamais la porter. Oui, vraiment, il y a une attache importante. Enfin, je comprends ceux qui font ça. C'est vraiment mon point de vue. Parce que je l'ai fait. Ma première chaussure, qui est dessinée, qui est sortie, je l'ai jamais portée. J'ai une paire, je l'ai jamais mise au pied, elle est sur l'étagère, quoi. Mais moi, dans ma démarche, c'est de pouvoir la porter. Parce que l'idée, c'est de transmettre une expérience. Quand tu mets la chaussure, que ce soit le confort, le fit, et trouver un nouveau type de confort, un nouveau ressenti quand on met la chaussure. Et c'est là où je mets en avant où la partie où faut qu'elle soit confortable, c'est parce que ça fait partie du concept.
Okay.
Je sais pas si je suis allé un peu loin.
Non, bien sûr, ça se comprend, mais alors, du coup, c'est marrant parce que on voit beaucoup de designers qui utilisent, comme toi, d'ailleurs, un Gravity Sketch, donc, qui est un outil, qui permet effectivement de designer, notamment en VR, si je me trompe pas, tu peux faire de la VR grâce à Gravity Sketch, et donc, t'es en immersion avec un casque, et donc, tu manies, on va dire, deux manettes, qui te permettent donc de faire ta shape, de remplir, bref. Et parfois, tu te dis, mais quand tu vois ça, est-ce que c'est juste du beau et voilà, et finalement, on fait des belles shapes, des belles chaussures, mais en vrai, ça serait... On pourrait pas les porter dans la réalité, quoi. Alors que toi, donc, quand même, tu utilises ça. D'ailleurs, c'est marrant, j'aimerais bien savoir que le Gravity Sketch, est-ce que ça te sert dans ton travail au quotidien ou c'est juste pour tes projets persos?
Pour répondre à la première question,
il y a plusieurs questions.
J'en vois. Si on peut les porter, j'en vois qu'on peut pas les porter ou que ça va être pas confortable, ça n'a pas la forme d'un pied. Après, ça, je les mets dans le domaine artistique. Le mec, il a envie de se faire plaisir et c'est comme un dessin. On va pas te dire, Oh, ton cartoon, Mickey, il a quatre doigts, quoi, en fait. Il a pas cinq doigts. Personne va commenter ça.
C'est vrai.
Bon, j'en vois beaucoup qui commentent, ah, oh, ta chaussure, enfin, que t'as fait, enfin, pas moi personnellement, mais genre, ça aussi, on peut pas la mettre au pied. J'ignore ou je réponds que c'est juste artistique. C'est une illustration, c'est un truc d'art. Plus que quelque chose de fonctionnel aussi. Le truc aussi, c'est, je suis dans l'industrie. Est-ce que je vais me mettre sur Internet gratuitement? Enfin, on va parler franchement. Une super idée gratuitement. Je sais pas. Il y en a qui le font. Enfin, je le respecte, mais moi, si vraiment j'ai une idée, enfin, mon idée, où ça va marcher et tout, je la garde pour moi, personnellement.
Ah. Donc ça veut dire que tout ce qu'on voit, par exemple, sur ton
Honnêtement.
compte Instagram, c'est des choses qui te font plaisir, mais tu sais qu'au final, c'est pas groundbreaking, quoi. Oui.
Il y en a, ah bah, je me suis fait, enfin, j'ai vu des comptes, je me souviens plus un compte qui avait repris 100, enfin, 99%, qui l'a mis sur le marché, ça a super bien marché.
Mais non.
Une de mes chaussures, où je suis allé un peu plus, réalisable.
OK.
J'aime bien jouer, enfin, et bon, c'est le risque.
Et tu peux attaquer? Tu peux attaquer ou pas?
Certains, je les ai protégés, celle-là, bah, non.
C'est marrant, ça, du coup, ça fait un parallèle. C'était une question que j'avais un peu plus tard, mais c'est pas grave, on va la linker maintenant. À l'époque, on avait déjà discuté pour notre interview et on parlait beaucoup plus des NFT. Et tu disais justement que les NFT, c'était un bon moyen d'arriver en tout cas en termes de preuve d'authenticité et de certificat, tu vois, de propriété, quoi. Voilà, peut-être d'aller contrer tous ces gens qui peuvent voler des modèles ou t'y crois toujours justement à ça. J'en profite hein, pour faire le parallèle maintenant, mais
Ah ouais, non, c'est sûr. Enfin, je crois que NFT. Après, avec tout ce qu'on entend, c'est juste qu'il y a une vague où les gens entendaient qu'on pouvait se faire beaucoup d'argent et qu'on sautait dessus. Mais je pense que la technologie, elle est super bien. C'est juste un moment où on est en train de toucher, voir comment l'utiliser. Mais je pense que je garde quand même un œil parce que c'est pas, moi j'y crois. Parce qu'il y a tellement de spéculation. Ça tombe bien. Enfin, c'est tellement nouveau que ça. Je comprends que ça fasse peur. J'ai mis énormément de temps à comprendre ce que c'était. Et quand j'ai compris, je me suis dit, ouais, c'est vraiment. Il y a moyen de protéger les artistes, des choses comme ça, quoi. Et garder une trace de qui appartient à l'idée, je trouve ça. Et que ce soit pas truquable, franchement.
Oui, presque l'euro daté, quoi, hein, c'est-à-dire j'ai fait ce modèle à tel moment et
Voilà.
hein, comme si tu avais
Et
un.
pas que le design.
Ouais.
Ouais.
Ok.
Dans tout corps de métier, l'historique d'une pièce ou d'une sneaker, par exemple, qu'on va dans un NFT, l'authentifier de la personne, tu sais qui l'a eu en premier. Enfin, on peut retracer l'authenticité d'un produit, je trouve. Je trouve ça énorme. Aujourd'hui, tout dans l'art numérique, c'est le truc qui ouais, c'est essentiel quelque part.
Ok, donc ça, peut-être qu'on reviendra un peu si on a le temps d'ici la fin de l'épisode sur les NFT et peut-être ce que font les artefacts, etc. Pareil, tu me diras si tu peux en parler ou pas. Bon, voilà. Mais
Attendez, on
bah ouais, non mais
ouais.
on va continuer à parler de toi d'abord et puis si on a le temps,
Ouais.
on en parlera. Et le plus important aujourd'hui, c'est toi et c'est pas forcément un artefact. Donc on verra si on peut, on le fait. Et puis tant pis. Sinon, t'emploies une petite signature enfin, je sais pas si c'est une signature hein, d'ailleurs, hein, mais quand tu en tout cas proposes un nouveau modèle sur Instagram, c'est design to it, it to design. C'est quoi cette petite signature? Il y a une signification particulière?
Ah oui, énormément. Moi, je viens d'une famille modeste. Du coup, je travaille pour pouvoir manger. Mais je mange aussi parce que je me fais plaisir dans mon travail. C'est une espèce de boucle. Et ouais, c'est aussi une manière aussi de voir, de savoir d'où je viens. C'est un peu, ça m'aide à garder la tête sur les épaules. Et ça marrant comme jeu de mots aussi. Et moi, j'adore manger, j'adore la nourriture. Moi, ça peut me faire ma journée. Enfin, si je mange mal un petit déj, ça peut me gâcher le reste de la journée.
C'est vrai,
si mon repas
Ouais, non, mais je vois souvent tes stories,
c'est
et c'est
un peu
vrai,
gamin.
souvent. Et d'ailleurs, c'est hyper healthy, hein, je fais une petite parenthèse, mais bravo, hein, ça a l'air hyper healthy ce que tu manges.
Comment dire, que à ma femme.
Non, je vois, il y a des petites
Mais j'adore
graines,
cuisiner, vraiment.
tu vois, des légumes, tac-tac.
Non, c'est hyper important. Enfin, pour moi, la nourriture. Après, c'est artistique aussi, hein. Moi, je suis un gros fan de Top Chef. Et c'est un peu comme un concours de design aussi pour moi. Ça reste, c'est dans le même esprit. T'as ça de temps, tu dois faire ça, t'as des contraintes, t'as des facteurs inconnus qui arrivent et t'as les consommateurs, je disais, ou les gens à qui tu dois répondre au brief. C'est Etchebest, c'est Linda Rose, c'est les grands chefs étoilés qui viennent. Et moi, c'est cet esprit-là que j'adore.
C'est
Et
intéressant d'avoir
ouais,
ce
c'est
point de
pour
vue,
ça
ouais.
que cette signature et tout, c'est référence à tout ça. Enfin, en plus, je viens d'une famille asiatique cambodgienne où ouais, la nourriture, c'est le rassemblement, c'est un moment hyper convivial. Du coup, voilà, le référer à la nourriture, ouais, il y a tellement de signification autour de ça.
Oui. Donc c'est une
Je
vraie
pourrais parler
signature,
des
quoi.
heures.
C'est ouais. Non, mais
Ouais.
c'est hyper intéressant. Du coup, maintenant, quand je verrai tes posts, je saurai à quoi ça fait référence. Petite question. Après, on va vraiment rentrer sur les slides. Enfin, sur tes projets. On va parler précisément de certains modèles. Comment tu gères juste ton temps entre donc Nike aujourd'hui, mais bon, on aurait pu dire Antar ou Adidas. Tes side projects, parce que j'imagine que bah, dessiner, designer, aller printer en 3D, peut-être que tu as le matériel chez toi, mais peut-être pas non plus. Donc, et puis ta vie de papa aussi, de jeune papa. Comment tu arrives à concilier tout ça? Est-ce que tu dors déjà?
Enfin, je sais pas si c'est une chance, on verra. À la fin de ma vie, de pas dormir longtemps. Moi, maintenant je dors plus longtemps, mais à l'époque je dormais 5 heures. Ça
Ouais.
me suffisait 5-6 heures. Bah, depuis que je suis papa et tout, j'essaie de prendre plus soin de ma santé. J'essaie d'avoir 7 heures et plus 8 heures le week-end. Je priorise tout ça maintenant. Bah, on va dire, créer tout ça à côté avec du lit. En plus, le fait de faire du sport, c'est un équilibre et c'est une manière de vivre. Parce que, dans le sens où, entre guillemets, je me souviens que mes profs me disaient, ouais, il faut manger des designs. What? Là, je commence à. Ça travaille dans le sens où, ouais, ben. Quand je fais quelque chose, ben, des fois, j'ai une ligne. Est-ce que ça peut répondre à mon projet? Comme je te dis, je vais me promener, ou je vais faire du sport, ou je vais cuisiner, ou je vais jouer avec mon fils. Des fois, il y a des trucs. J'essaie de vraiment donner mon temps, d'être investi 100%, mais il y a quelques moments où je dérape assez vite dans ma tête, où je regarde un truc, hein, une forme, un pavé qui se plie n'importe quoi. Là, je regarde, je vois un câble, et une forme bizarre, et je me dis, est-ce que je peux l'associer à mon projet en ce moment? C'est un peu une espèce de. Alors, j'ai pas de mots, enfin.
Oui, tu as toujours le cerveau qui est éveillé,
L'association.
quoi, finalement, quoi que tu fasses, ton cerveau, il est toujours
Ouais.
éveillé sur le design,
Ah,
quoi.
voilà. Ouais.
Oui.
Ouais. J'essaie de déconnecter aussi. C'est hyper important. Il y a des moments où je bloque et m'entêter, ça sert à rien. Et c'est là que la maturité, hein, quand je débutais, j'étais en mode, bah, les mangas, faut jamais abandonner, etc. Travailler jour et nuit et tout. Là que le recul, je sais que, ok. Ça bloque, ça sert à rien. Va faire autre chose, va faire un tour, va marcher. une grande respiration et tu deviens plus, on va dire, efficace. Oui. Du coup, ouais, j'essaye de viser l'efficacité comme
ben, ouais, je vois ce que tu veux dire.
Pour ceux qui font du sport, ben, il y aura une passe de Zidane. Pas, moi, je vois une passe, le geste. Pour certaines personnes, ça apparente une passe normale et lambda, mais enfin, moi, j'adore le foot et je vois une passe de Zidane. Je comprends, enfin, je comprends. Je pense pas que je comprends parce que j'ai pas fait du foot du haut niveau, mais j'arrive en, enfin, avec modestie, entrevoir la beauté, le geste, enfin, la précision, l'effet de ballon qui donne, des trucs super subtils. C'est beau, moi, je suis
vraiment... Ah oui, c'est sûr. Ah, bah, Zidane. Ah, mais c'est vrai, hein. Parfois, je me fais les, tu sais, les compilations. Les compilations, les vidéocompilations là sur YouTube de Zidane, tu sais, avec ses passes et tout.
Ah oui,
mais je les montre à mon fils, tu vois, parce que c'est beau. Voilà. C'est agréable.
Ouais. C'est de l'art. Pour moi, c'est niveau. Ouais.
Clairement.
Contrôle, enfin, contrôle du pied, la première intention.
Ouais, non, mais il y a une agilité, une finesse. Bon, on pourrait parler de Zidane pendant des minutes et des minutes, hein. Mais c'est vrai que tu sens une différence, entre ce type de joueur, d'humain même, et les autres, quoi. Il y a un truc.
C'est cet état d'esprit qui est inspirant. C'est de relier tout ça. Et je sais qu'il il adore le foot, quoi. Tu le sens et il arrive à faire tout ça. Il y a une passion quelque part. Et moi, c'est un peu, voilà. C'est un peu dans le même esprit de trouver la justesse, le bon milieu dans. C'est pas facile, hein. Moi, je faisais beaucoup d'erreurs et tout. Je dis pas. Des fois, je travaille trop, ou il y a un moment où. Et c'est normal d'être. C'est comme dans une saison, il y a des hauts et des bas. Et il y a une époque où je l'acceptais pas, où j'avais besoin d'être tout le temps en haut, tout le temps être à fond. Et... Là, avec le temps, je commence à. Enfin, j'apprends à souffler, à comprendre. C'est un peu comme. Au bout d'un moment, ton corps est supplié, il faut comprendre ton corps, etc., dans une saison, et l'entretenir, et faire ce qu'il faut. C'est un peu ça. Peut-être que j'ai pas le temps de faire du sport, bah, j'ai le temps pour faire 10 pompes, ça prend. Enfin, ça prend 5 minutes, non, même pas, en 10 secondes, enfin, 20 secondes, on va dire. C'est comme ça, ça reste du sport, c'est des trucs où tu prends des escaliers. Ouais, c'est d'essayer de trouver l'équilibre pour ce que tu veux faire. Je pense que ça s'applique un peu partout, c'est pour ça que j'arrive à. C'est pour ça que je ne prends pas de référence vraiment design, mais c'est plus piocher ce qu'il y a à gauche, à droite dans le monde. Il y a tellement de choses qui se passent qui sont hyper intéressantes.
On va parler de ouais. Certains de tes modèles et projets. Robert, avant cela, puisqu'on va finalement aborder aussi ouais. Dans ces différents projets ce que tu as pu faire chez Anta notamment. Petite question, donc on a parlé de ton arrivée chez Adidas. Tu y es resté quasiment 10 ans dans cette maison et après tu es allé chez ouais. Anta. Qu'est-ce qui a motivé, donc Anta, hein, c'est un groupe chinois ouais. Et qui possède notamment Wilson, Salomon, il y a Fila aussi je crois en Chine, et il y a Arc'teryx, ouais. Une marque un peu technique qu'on connaît aussi ici. Voilà, qu'est-ce qui a motivé ce départ ?
Moi ouais, c'était... Quand je bossais chez Porsche Design, on faisait des développements trip, c'est là où tu vas en Chine, c'est là où étaient faites les chaussures, pour développer les chaussures. Et de saison en saison, chaque fois que j'allais en Chine, je voyais la ville se développer en puissance. Tu imagines, j'allais une saison pour aller à l'usine de l'hôtel, t'as limite, t'avais besoin d'un 4x4 parce que y a des rochers et tout, ça tremblait. Après, 6 mois après, t'as une route. Un an après, la route, elle est clean. T'avais commencé à les buildings. En fait, il y a une progression énorme. Mais en Chine, je vois, il y a une dynamique niveau créativité, énergie. Ils copient, ils essaient de copier, ils font des matchs. Ils font tellement tout et n'importe quoi. Ça apporte tellement de, on va dire, happy accident, des surprises que tu t'attends pas. Par exemple, j'avais une chaussure Gucci sur un tooling Adidas, et c'était Gucci et tout, et Putain, bah, une collab Gucci Adidas il y a 2 ans, quoi. Il y a tellement de trucs improbables que un peu les Simpsons l'ont fait, quoi. C'est un peu dans cet état d'esprit qui m'avait attiré. Il y avait une progression du pays aussi, hein, en quelques années, la puissance que c'est devenu. Je trouve ça fascinant et m'y allant dans mes facs de trucs. Putain, bénéfique créativement, ça peut être hyper bénéfique, surtout. Après, Adidas, c'était mon premier métier, ça faisait 10 ans, j'avais peut-être besoin de faire d'autres challenges, trouver des trucs. J'étais pas encore d'enfant et tout, j'avais moins d'attaches. Du coup, c'est dû, avec ma compagne. Elle aussi, elle aime bien la culture asiatique. Et on y va, enfin, on n'a qu'une vie, quoi. On tente. Ouais, franchement, aucun regret, c'était super.
Et
Enfin, j'ai énormément appris, c'était hyper dur l'adaptation et tout.
ce que j'avais demandé,
Ça
oui.
valait le coup.
Ok. Ouais, ça a été, j'imagine, ouais, très très difficile, quoi. Parce que là, bon, t'avais amélioré ton anglais, j'imagine, avec presque 10 ans chez Adidas. Mais après, bon, c'est encore une autre chose d'arriver dans une culture complètement différente.
Je devais apprendre les chinois et tout.
Ah oui, t'as appris à parler
Ouais.
chinois. C'était un quoi? C'était une obligation en fait?
Je parle pas.
Ça faisait partie du contrat un peu?
Non. C'était pas obligé, mais il valait mieux. Enfin, l'adaptation, parce que c'est une entreprise chinoise où tout le monde parle chinois. J'avais une assistante qui me suivait un peu comme mon ombre, qui traduisait tout pour moi, et qui me lisait tous mes mails en chinois, ou qui, quand je recevais un mail, bah, elle le savait aussi, elle me faisait la traduction en anglais. Anta nous donnait des cours de chinois. Je trouve ça super, super bien, franchement, pour l'adaptation et tout. Et bon, Adidas, c'était pareil, il nous donnait des cours d'allemand. Ouais. Et ce qui est normal, tu vas dans un pays et s'adapter pour le pays, je trouve que c'est quand même un minimum. Et ouais, bon, après, c'est hyper dur à apprendre. Surtout, moi, je suis pas bon à l'école, tout ce qui est études. Bah ouais, je me suis fait envoyer du coup. Tu vois que c'était pas. Je suis un peu dur de la tête. Et bon, j'ai appris parce que. Après, quand tu es immergé dans ce milieu où ça parlait chinois, enfin inconsciemment, il y a des mots qui rentrent. Là, je peux pas parler, mais toi, quand j'entends des touristes et tout qui parlent chinois, je comprends à peu près quelques mots-clés. Je comprends ce qui se passe, où je peux aller au magasin et commander quelque chose.
Trop cool. Alors, bah, écoute, on va voir justement ce que tu as fait un peu chez Anta. On va commencer d'abord. Donc là, j'ai mis à l'écran, donc pareil, je relayerai sur Instagram,
Ouais.
un de tes projets. Donc justement, tu parlais de Porsche Design tout à l'heure. Est-ce que tu peux raconter un peu le process de création, en tout cas, voilà, ce que tu as fait autour de ce projet?
Ah, ça, c'est ça, mais enfin, projet coup de cœur, je pense. Je me demande qu'est-ce quoi la chaussure. Pas dessiné où t'étais le plus fier. Je peux pas dire, mais celle-là, ça doit faire partie des premières parce que j'avais commencé à dessiner quand j'étais junior, je venais de débuter. On avait un projet qui s'appelait Easy. C'était un peu toutes ces facilités. Une chaussure hyper simple, en fait. On pouvait la prendre partout, la plier et tout. Et on trouvait pas. Et moi, j'ai regardé un documentaire sur Bruce Lee et il parlait de. Moi, je frappe comme une chaîne, un truc comme ça. Les gens, ils frappent. Normalement, ils frappent comme un marteau. Et alors que la chaîne, ça donne. C'est une espèce de vibration qui donne des blessures intérieures, invisibles et tout. Et c'est pour ça, les boules là qu'il y a dessus, c'est un peu inspiré de la chaîne et tout. Et je fais, oh, c'est ça. Ben, c'était un dimanche hein, en plus. Personne m'a demandé de bosser. Le meeting, c'était lundi. On n'avait pas grand-chose. C'était un peu révélation. Quand même. Et je fais, oh, il est venu naturellement. Après, c'était provocateur. Ça, c'est la chaussure finale. Mais le concept, c'était assez poussé. Là, je l'ai un peu vraiment travaillé dans les lignes pour aller dans le langage Porsche Design. Parce que ce que j'avais fait, c'est parti super loin. C'était hyper futuriste. Au niveau de l'histoire, il fallait que je l'adapte à Porsche Design, qu'ils la comprennent. C'est vraiment. Parce que je sais que Porsche Design, Bruce Lee, ils allaient être réticents. Je ne pouvais pas parler de Bruce Lee. Du coup, je l'ai amené d'une autre manière avec les chaînes de production, assez l'ingénierie pour design et tout, la précision,
oui.
etc.
Storytelling.
Je l'ai amené comme ça. Voilà.
Et juste pour reparler vite fait hein, de Porsche Design, parce que tout le monde ne connaît pas forcément cette marque, ou en tout cas, tu vois, cette branche. Donc ça, c'est chez Adidas.
Ouais.
Et donc, c'est une branche spéciale avec Porsche.
Bah, c'était le début, on va dire. Je commençais à faire des collaborations. Et je m'en souviens, à l'époque, ils voulaient se lancer dans le motorsport. Avec Puma, Motorsport et tout, Ferrari. Il y avait une grosse trend de motorsport, chaussures Motorsport. La Monstro de Puma, c'était géant, quoi. Et, bah, dire, ça avait, franchement, avant d'être bougé chez Porsche Design, je savais pas qu'il y avait une collab. Je l'ai appris quand on m'a recontacté. Parce qu'après mon stage, j'ai dû retourner à l'école pour finir mon master. Et entre-temps, ils avaient besoin de quelqu'un chez Porsche Design. Et ils avaient pensé à moi, quoi. J'ai envoyé mon CV. C'est passé super bien. J'ai rencontré Jacques. Et ouais, c'est là où j'ai su qu'il y avait une collaboration.
Et sur
ouais,
ce
qui
modèle,
était important,
il t'a mentoré?
Ouais.
Pardon. Il t'a mentoré justement sur cette...
Ah, oui.
Oui, ok.
Ah, ouais. L'idée partait de moi, c'est que je t'ai dit que Bruce Lee et tout, mais oui. je l'ai amené différemment. Ensuite, je me souviens qu'on l'a présenté, le marketing et tout, c'était ouais, c'est quoi ça et tout, ouais, ça va, c'est pas passé. Et moi, je me souviens, j'ai regardé Jacques, je sais que c'est ça, je sais pas, c'est une intuition. Lui, mais franchement, un junior comme moi, il me dit ok, si t'es sûr, je te fais confiance, on y va. Et il m'a mentoré sur les lignes, la construction aussi, bien sûr, parce que je débutais, les densités, enfin, plein de subtilités, le langage pour l'inan, il m'a beaucoup aidé, ça et tout. Et ouais, c'est pour ça que c'est important, c'était un peu la croyance qu'il m'a donnée au départ d'une chaussure, qui au final, après, on l'avait présente, submise au Express Award avec d'autres chaussures, et elle a gagné le premier prix, quoi. Enfin, elle a gagné un prix design, quoi. Mes premières chaussures pour le design entièrement dessinées.
Trop bien.
Ouais, il m'a mentoré aussi. Hein. C'est vraiment aussi, je considère ça un travail d'équipe.
Et donc, tu as gagné un prix avec ça. Et donc, ouais. J'imagine qu'elle est allée sur le marché. Donc, il y a eu une certaine émotion, non? Lorsque tu as vu les gens vraiment la manipuler, la mettre. Parce que voilà, ça a été ton premier gros projet public, on va dire.
Après, Porsche Design, c'est assez niche. Tu vois pas, tu croises pas partout les magasins Porsche Design. Du coup, c'est plus dans les aéroports où je pouvais la voir et tout. Ouais, je regardais les gens, regardais, mais je sais que c'est plus important aussi quand j'avais dessiné. Au sein de l'entreprise, ça fait pas mal de bruit. Enfin, ça qui, c'est vraiment les trucs que les gens, les gens me demandaient, j'ai vu, je peux t'emprunter ce proto, quoi. Pas mal, enfin, énormément de personnes.
Trop bien.
Du coup, c'est là où, enfin, personnellement, voir ça, enfin, j'ai réalisé, énormément de designers super bons et d'avoir enfin, j'ai senti fier, je suis là, putain, super. Et ouais, aussi, je réalisais pas parce que j'étais junior et je suis même débuté. Tout est tombé, ça allait vite, hein. Tomber ça au bout de 6 mois, dessiner ça. Ensuite, gagner le concours. C'était en Allemagne. Le concours, il y avait quand t'avais Sony, LG, enfin, t'avais une grosse boîte de, pas que de sport, mais de tous les jours, enfin. LG, quoi, Sony, enfin, moi, assis à côté. C'était un peu Griezmann, mais on dit sur la même table. c'était fort, c'était fort. Je réalisais pas, j'étais en stage et tout, regarder tout ça, et tenir le trophée, regarder tous les gens t'applaudir. c'est un beau souvenir. Je partage avec Jacques. Ouais. Et ouais, je suis un peu dévié pour revenir à la question. Bref, c'est une. Je sais, ouais, comme je disais, j'analysais tous les gens, comment ils la regardaient, comment ils la portaient, tout. Satisfaisant, c'est excitant. Après, il y a quand même une appréhension, bien sûr, que les gens n'aiment pas la repose et tout. Et ouais.
Oui.
Mais j'y arrive le positif et ça fait partie du monde.
Oui, c'est
Faire
ça.
à tout le monde.
Ça, c'est clair. On va passer sur un autre
Mais ça
modèle.
pousse à s'améliorer. Ouais.
Celui-là, je l'adore aussi.
Ouais.
Putain, il est incroyable. Y3,
Après.
donc.
Ouais, Vector Racer, c'est-à-dire Light, la chaussure Racer hyper légère en japonais. C'est moi qui l'ai nommée.
Ah,
Et
ok.
moi j'aimais bien cette chaussure parce que c'est on avait une avec Adidas Yamamoto il préparait chaque saison et ça se prépare et rencontre enfin l'équipe design rencontre ça les grands boss rencontrent Yamamoto ils discutent des directions et tout et ils nous briefaient sur la direction. C'est qu'à ce moment-là, l'équipe, j'étais tout seul au bureau, l'équipe avait des workshops où d'autres étaient à Paris, et moi j'étais tout seul. Et j'ai commencé à bosser sur ça tout seul. C'était vraiment un brief venant de moi sur les directions. Il y avait d'autres trucs qu'on a enlevés, que j'aurais aimé que ça reste. Donc, voilà, je suis pas décisionnaire de tout ce qui arrive, il faut faire des compromis. Ouais, ça, j'avais fait un proto à la main sur ça. Et je l'avais présenté, il l'avait montré, il l'avait beaucoup apprécié. C'est un peu l'idée de la direction de la collection. Je pense que c'est cette chaussure qui a ouvert le défilé en 2018.
Ça, c'est beau, hein, quand tu ouvres
Ouais.
un défilé avec ça, tu dois être hyper fier,
Moi,
d'avoir produit ça,
ouais.
quoi.
Grosse lutte.
Mais là, donc, t'as réaliser le brief et même au niveau de la shape, est-ce que t'as retouché des choses sur donc la shape vient de toi, les différents détails, tu vois comment t'as travaillé ça avec une équipe, t'avais une équipe avec toi?
Le départ, il y avait une direction de la part qu'ils avaient brainstormé avec l'équipe japonaise avec Yamamoto, avec son bras droit, etc. On nous avait reporté, c'était un truc avec air in the body, je sais pas, comme ça, avec l'espace entre l'air et le corps. C'est hyper philosophique, c'est ça que j'adorais Yacroix. Il y avait ce côté hyper poétique. Je suis parti sur un truc. Enfin, c'est pour ça qu'il y a des pièces flottantes avec espèce de socle qui est près du corps et tout. J'ai plus tout en détail. Dans les grandes lignes, c'est ça. Il y a plus de références. Il y avait d'autres protos qu'on avait fait qui sont pas montrés, mais où j'exprimais encore plus tout ça. Et ça, c'est ce qui arrive au final. Et ça, je l'ai fait par. J'ai fait le pro. Par exemple, l'outsole, la semelle, c'est une semelle existante. Elle est coupée d'une chaussure, la Inikki, là, d'original. Et j'ai commencé à mettre une chaussette. Parce que la Inikki, elle est très classique sur le upper. Et moi, je voulais la pousser plus en mode futuristique. Faire une chaussette, Y3, c'est connu pour faire un peu, faire des chaussettes ninja et tout, des trucs comme ça. Du coup, partie sur une basse chaussette, qui est près du corps, ça faisait partie de la direction aussi. C'était pas par hasard. Et avec des pièces flottantes, j'avais fait d'autres, ouais. À partir de là, j'ai plus ou moins construit, j'ai mis des pièces, après j'ai sketché à côté, enfin, c'est un travail des deux entre dessin et fait à la main, quoi, un DIY.
Ok. Ça a été produit en combien d'exemplaires, tu sais? Ça a été une grosse production ou
Et oh, okay. Grosse production. Y3, c'est pas de la masse production comme une chaussure inline, on va dire. Je connais pas les noms, mais ça a été produit en bonne quantité, je pense.
Ça marche. On va avancer sur ce modèle-là. Et donc ça, c'est la Tron 3.0. Et là, on passe chez Anta.
Ouais. C'est marrant, c'est la dernière chaussure que j'ai designée. avant de partir. Et je le savais. C'est ça qui est marrant. C'est parti d'un. C'était le nouvel an chinois qui est arrivé. Et le nouvel an chinois, on est en vacances pendant 7-8 jours. Et 2 jours avant, on sent un brief. Et ils veulent faire il y a le tronc 2.0. Ils ont besoin du tronc 3.0 pour les 4 prochains mois pour la produire. Et l'idée, c'est OK, faites-nous un truc nouveau. Il y a les vacances entre temps. Rentrée de vacances, on veut voir quelque chose. Et sachant que j'avais déjà dit oui à Nike, et il y avait ce brief aussi, et je trouvais que c'était hyper challengeant aussi, ça va être la chaussure, le gros lente, la chaussure principale de la saison, de l'été, et sachant que c'était la dernière, je me suis dit, là c'est comme tu me dis, la question c'était ça, est-ce que ils donnent un brief à plusieurs équipes et que le meilleur gagne, c'est ça, le brief à plus tous les designers, footwear, et que le meilleur gagne. C'était ça, en fait. Je trouve ça stimulant. Je dis, allez, c'est ma dernière.
Oui. Incroyable.
Et ça, je l'ai fait dans ma tête. Je l'ai imaginé dans ma tête avant de la dessiner, en fait. Et je connaissais déjà la philosophie. J'étais en innovation. Cette chaussure a bien de l'innovation. J'ai quand même un avantage, je ne peux pas le cacher. Tout est venu facilement, enfin, par hasard. L'image à droite, c'était vraiment, j'avais découpé une chaussure, la version 2 et tout, pour la remodeler et tout. Là, je l'ai faite sur Reality Sketch, je l'ai fait, en tout, le design, je l'ai fait en 2 jours, quoi. Je l'ai présenté. En plus, c'était une chaussure performante, tout, je devais répondre à plein de critères et tout. En fait, elle devait être portée pour les athlètes professionnels. En plus, les athlètes chinois et tout. C'était l'ouverture d'un événement sportif en Chine. C'est pour ça que on avait 4 mois à la fin pour la produire. C'est-à-dire la dessiner, faire les protos, la tester et la produire. Et ça, en général, ça prend un projet comme ça, ça prend 2 ans. Facile.
Gros challenge.
Langage design, je sais pas. Ouais. En même temps, je me suis défrayé, je me dis pourquoi je me suis lancé dedans alors que je sais que je pars, enfin, je sais que j'allais partir. Ouais. Et en même temps, c'était un peu, allez, c'est ma dernière, donne tout, sois pro. Ouais, je me suis fait plaisir, c'était hyper dur. Parce que personnellement, c'était le moment où j'étais proche de la naissance de mon fils, c'était il y a 1 an et demi. Et ouais, c'était vraiment pas le pire moment. Et Je sais pas ce qui m'a appris. Franchement, là, je repense, j'en parle aujourd'hui, je me dis, pourquoi t'as fait ça? T'aurais pu avoir des vacances pépères tranquilles, montrer un truc comme ci, comme ça. Et
c'est la passion.
Comme ça, j'ai pas bougé le projet. Ouais.
C'est la passion.
Quand je l'ai fait, je me suis dit, j'épouse. Mais bon, voilà, ça, c'était ma dernière et je voulais la faire bien.
Ouais, mais oui, sortir la tête.
Je suis content de dire.
Donc ça, c'était effectivement ton dernier projet chez Anta. Ok, ça marche. Il y a ce projet aussi, Robert, que tu as fait à l'époque, d'ailleurs, où j'étais chez Futures Factory. C'est là où je t'ai connu. Oui. Et donc, c'est la genesis qui s'appelle Helios, du projet voilà. Futures Factory.
C'était Nicolas, un autre Nicolas.
Oui, Romero.
Je l'ai contacté, Romero, ouais. Je suis vraiment mauvais pour les noms. Qui m'avait contacté, parce qu'il m'avait mis mes travaux sur Instagram où je faisais plein de 3D et tout. Et il cherchait quelqu'un qui fasse de la chaussure 3D. Et moi, je faisais ça pour le délire. Et il m'avait parlé de NFT et tout. Et on a commencé à discuter comme ça. On s'est échangé même au bout de 6 mois, pendant 8 mois, quand on parlait de ça. Moi, je savais pas c'était quoi NFT. J'avais fait un événement NFT. Où j'avais présenté des chaussures et tout, espèce de, je sais plus comment ça s'appelle, Digital Fashion Week, je crois, avec Luxo.
Ouais.
Et ouais, on m'avait présenté ça, je pense que c'est là où il m'avait connu, et on s'est connu, et là, il m'avait proposé de faire ma propre sneaker. C'est ça que je suis venu avec ce projet Helios. L'idée, c'était, qu'est-ce que je peux faire, quel message je peux donner avec une chaussure, quoi. C'est l'écologie. C'est un peu du greenwashing, hein, ce que je fais, mais plus, C'est une philosophie, je vois ça comme une œuvre d'art. Celle-là, par contre, on peut la, il y a moyen de la faire, la porter, il y a moyen, mais bon, après, il y a tellement de contraintes techniques que, ouais, laisse tomber, c'est vraiment pour le fun, c'était vraiment une chaussure qui puisse se recharger avec des panneaux solaires et tu élimines les chaussures, enfin, pour le flex. Et pour pousser plus loin, ben, l'énergie que tu récoltes, tu peux la charger sur une batterie, un power bank, et voilà, en gros, c'est ça, et pouvoir faire un truc futuriste, c'est ce qui est bien dans le digital. Il n'y a pas de contrainte, quoi. J'ai une chaussure qui s'allume facilement avec des panneaux solaires, sans comprendre la technologie, ça reste un concept, du coup, tout est permis. Ça se trouve, c'est pas confortable, j'en sais rien. Mais moi, dans ma fonte, enfin, dans mon approche, je sais que matériaux et tout, on peut la faire confortable. Et Nicolas voulait vraiment la produire.
Oui. Je me souviens, j'étais là et.
Moi, j'étais attaché.
Ouais. Pardon, ouais. Pardon. Non, bah, oui, c'est qu'il y a un peu de latence entre mon micro et toi, là, le moment où tu entends ce que je suis en train de dire. Mais juste pour dire qu'on était rentré en contact avec, bon, je peux le dire, hein, moi j'ai pas de NDA là-dessus, mais avec la partie innovation de Louis Vuitton, ou en tout cas, ça aurait pas été fait par Louis Vuitton, mais quelqu'un qui bosse là-bas et qui est hyper pointu sur tous ces nouveaux matériaux, etc. Et ça aurait été hyper top de le faire, quoi.
Après, moi, j'étais, enfin, bossé pour Anta, enfin, j'avais un deal où j'ai pas le droit de faire ma propre chaussure et la commercialiser, quoi. Après, je sais pas où ça allait mener si on devait la commercialiser, mais c'est plus en termes de projet d'art où il y avait moyen de le faire. Mais après, moi, j'avais énormément de travail. Je sais qu'un projet comme ça, je voulais le faire bien et c'était pas les conditions, enfin, personnelles, c'était pas possible. Pas assumer un autre projet comme ça.
Il y a deux autres projets dont tu voulais parler, hein, c'est la Fashion Week, la Anta China Fashion Week,
ouais.
et aussi ouais, un autre projet.
Ouais. Anta Fashion Week, c'était pour la Chinese Fashion Week. Anta voulait prendre part, mais d'une manière digitale, cette fois, parce qu'il n'avait pas le temps de tout faire, c'était... 2 semaines avant que je finissais mon contrat chez Anta, parce que j'avais démissionné, et encore, j'avais pas besoin de faire ça. Je lui ai dit, c'est pas tous les jours où on peut faire un projet comme ça, parce que j'étais en charge du projet créativement, ça veut dire que j'étais en charge de la direction créative, le clip sur la vidéo, enfin, c'est moi qui ai storyboardé les scènes et tout. J'ai fait les chaussures en 3D et tout, c'est un peu pour promouvoir la marque. Du coup, je s'inspire de ce que j'avais fait sur la Tron 3.0, mais je l'ai fait en version digitale où ça explosait de partout avec les pièces qui volent, etc., pour vraiment donner un aspect digital. Et ouais, on a fait une vidéo qui dure 3 minutes, je crois. Et ouais, franchement, faire un peu art directeur d'un clip, un truc que j'aurais imaginé, je peux faire, et j'ai collaborer avec des gens de la AI, de Baidu, c'est un peu le Google chinois. Et en termes d'intelligence artificielle, technologie, il y avait des choses, NDA, mais il y avait des choses extraordinaires. C'est un projet hyper passionnant. C'était vraiment, mais je regrette pas. Ça.
Oui, en plus, là.
Et ensuite, ouais.
Oui, pendant, je disais, on est vraiment dans le cœur du sujet, en plus que tu apprécies, quoi, parce que là, on était vraiment, il y avait un aspect très manga, très gaming, très une ouverture sur presque le j'ai envie de dire les avatars et le métaverse, quoi, aussi. Donc on était en plein dans ce que tu kiffes, quoi.
Ouais, les modèles qu'on voit sur la vidéo, en gros, c'est des idoles, en fait, espèce de d'influenceuses digitales. On les louait, mais même pas les générer, c'est des...
Incroyable.
Ben, tu loues un avatar, quoi. Il y en avait qu'un, fallait la louer. Enfin, il n'y avait pas qu'un, mais c'est comme si tu loues la personne et qu'on la louait, personne, pendant ce temps-là, n'avait accès. C'est comme si tu demandais à un présentateur, un mannequin pour ta collection de venir et la porter. Ben, voilà, c'est unique. Et ouais, c'était ça, quand on a choisi les modèles et tout. Ouais, c'était fou.
Ok. Et là, ce dernier projet, du coup.
Muget Smash Kick, c'est un peu un projet NFT, mais je commençais à bosser chez Nike, du coup j'ai commercialisé tout NFT avec Artefact, je me suis dit, ouais, je vais pas lancer dans un truc comme ça, NDA et tout, je me suis dit non. Bah, du coup, Un mec sur Instagram, on discutait souvent, c'est un russe, il faisait une expo à Dubaï, il m'a dit, oh, tiens, je fais une expo et tout, j'aime bien ton travail aussi. Vas-y, il m'a donné un template, fais ce que tu veux. Et moi, j'avais ce projet, je me dis, bon, bah, ah oui, je vais l'utiliser pour ça, parce que c'est pareil, c'est un peu Emugen Smash Kick, ça veut dire Infinity Smash, c'est Super Smash Bros. Et du coup, en gros, c'est prendre des héros de mon enfance, les mixer, faire des sneakers des héros de mon enfance, genre, faire des sneakers de One Piece, ou inspiré de One Piece, l'univers de One Piece, Cloud de Final Fantasy VII, Sora de Kingdom Hearts 2. Et du coup, j'avais fait des sneakers comme ça, avec un template de caractère un peu SD, qui faisait des rotations, et ouais, c'était exposé à Dubaï sur les écrans géants et tout, en exhibition. C'est un truc, aussi, jamais j'aurais imaginé que je ferais un truc comme ça, quoi. Ouais. Ouais,
Excellent,
c'était fou.
excellent. Et alors,
Aussi, timeline hyper short.
combien? Combien de
Je
temps?
venais d'arriver à Portland, j'ai dû mettre des semaines à monter tout ça. Tu sais, t'avais des gros écrans avec une grosse définition et tout, avec des formes, fallait mettre en page, il fallait faire les montages. Et tu sais, faire de la vidéo, faire des rendus en vidéo et tout, de qualité, je sais plus, c'est du 4K. Déjà, moi, j'avais un ordinateur portable, quoi. C'est des trucs que tu fais un rendu, ça, tu laisses tourner toute la soirée, quoi. Et j'avais pas trop de droit, pas de marge d'erreur, quoi. Si ça plante, un truc comme ça, on est en retard et je peux rien présenter.
Et
Par
alors,
exemple, les montages aussi,
pardon.
je les ai faits sur mon téléphone après avoir fait les rushs et les rendus. C'était pour te dire à quel point j'ai dû optimiser ma vie dessus, quoi. Sachant que
L'agilité.
je devais faire recherche d'appart et tout.
L'agilité. Ah ouais, tu
Ouais.
m'étonnes, ça devait être hyper sportif. Et alors, donc on a vu tous ces projets. On peut pas parler donc de ce qui se passe chez Nike. Juste, je vais te poser une petite question sur le futur. La petite question
Ouais.
traditionnelle, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans le futur? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre finalement comme objectif, toi, en tant que footwear designer?
Oh, c'est une bonne question. Enfin, j'ai atteint tous mes objectifs, mais je crois que je suis allé au-delà parce que j'ai jamais enfin bossé. Je fais tellement de choses pour Adidas, je fais plein de collaborations. J'ai bossé pour Kanye West, Pharrell, Rick Owens, Raf Simons, tout ça et tout. C'est des designers, hein, de rêve. Enfin, on va dire happiness
Tout
et
simplement.
grâce créatif, grâce créatif, et qu'on s'éclate.
Robert, merci beaucoup pour ton temps. J'espère que tu vas pouvoir dormir un peu parce que là, il se fait très tard à Portland. Merci pour tout. Et ben, vas-y, je te laisse le mot de la fin pour conclure cet épisode.
Merci Nicolas, c'était un plaisir de partager mon expérience et merci aussi de permettre de donner enfin une plateforme à les gens pour pouvoir inspirer d'autres personnes et moi je trouve qu'on une communauté qu'on enfin on est on s'aide les uns les autres, on est une chaîne quoi et je suis heureux de pouvoir partager mon expérience si ça peut en aider un, deux, trois. Je pense que je serais super content. Du coup, voilà.
Ça marche. Eh bien, à très très bientôt. Merci
Bon.
Robert.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que cela vous a permis d'en apprendre un peu plus sur les chemins qu'empruntent les créateurs pour donner vie à leurs œuvres. C'est l'heure de se quitter et je vous donne rendez-vous dans moins de 3 semaines pour une nouvelle rencontre inspirante. D'ici là, si vous souhaitez supporter From Scratch, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur Apple Podcast et partout où il est possible d'en mettre. Vous pouvez également partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et vous abonner à ceux de From Scratch pour échanger et suivre toute l'actu. Un grand merci à vous, ainsi qu'au studio Likefire qui a signé le sound design du podcast et Ludovic Prigent pour la DA. Allez, salut tout le monde et à très bientôt sur From Scratch.